Vous écoutez, on lit pour vous.
S'intégrer, un coup de pédale à la fois, un texte de Caroline Touzin, paru le 10 août 2024 dans la presse. Beaucoup vivent au Canada depuis quelques mois à peine. Entre un cours de francisation, la recherche d'emploi, des enfants à charge, ces nouvelles arrivantes tentent d'apprendre à faire du vélo. Il y aura des chutes, mais l'adversité, elles connaissent déjà. Gracia Diamana s'est présentée au premier cours munie de protège-coudes et de protège-genoux. « J'avais vraiment peur de tomber et de me blesser », lance la jeune femme de 19 ans, qui n'avait jamais eu l'occasion d'apprendre à faire du vélo dans son Congo natal. Nous sommes dans le stationnement d'une école primaire de l'arrondissement de Saint-Laurent, un mardi après-midi de juillet. Une dizaine de femmes s'exercent à vélo sous un soleil de plomb. Quelques-unes travaillent leur équilibre sur une draisienne, bicyclette sans pédale. D'autres s'exercent au démarrage avec une seule pédale, pendant que les plus avancées s'attaquent au virage en contournant des petits cônes d'exercice. Elles en sont à leur deuxième séance, de 7, du programme « Toutes à vélo » de Vélo-Québec. Le programme vise à rendre accessible la pratique de la bicyclette à des femmes qui n'ont jamais eu l'occasion d'apprendre. Question que tout le monde soit à l'aise, les accompagnatrices qui leur enseignent les rudiments de ce sport sont également toutes des femmes. Les participantes de cette cohorte sont principalement des immigrantes ayant grandi en majorité en Afrique. La jeune Gracia a vite compris qu'un casque suffirait. Les protections aux genoux et aux poignets gênaient beaucoup trop ses mouvements. Débarquée à Montréal, seule, en plein mois de janvier, Gracia a fini par trouver un minuscule logement, beaucoup trop cher, et excentré, alors qu'elle étudie au centre-ville. Pour elle, apprendre le vélo, ce sera un moyen efficace et économique de se déplacer dans cette grande ville qu'elle découvre tranquillement. C'est long d'attendre l'autobus, lâche l'élève en technique juridique, marqué par son premier hiver passé à patienter tous les jours dans le froid pour l'autobus. Comme la plupart des participantes, Gracia en a beaucoup sur les épaules. « Toute ma famille compte sur moi », confie la jeune femme qui rêve de devenir avocate. Durant les séances, les femmes s'échangent leurs trucs en lien avec le vélo. Mais elles s'ouvrent aussi sur les défis de rebâtir leur vie ici. L'une a des cours de francisation à réussir. L'autre cherche depuis des mois un emploi dans son domaine. On ne lui offre que des emplois manuels au bas de l'échelle, alors qu'elle a une formation en gestion. Une autre encore attend impatiemment son permis de travail pendant que ses économies s'épuisent. Motivée malgré les obstacles. Lundi Sumidex est de 35 ce jour-là. La chaleur ne diminue pas leur ardeur à réussir. Fatou Thiam s'affaire sans relâche à réussir un démarrage avec une pédale. Elle garde l'autre pied au sol pour tenter de conserver son équilibre. Sa motivation? Sa fille de 3 ans. « J'ai acheté son vélo. Il est sur le balcon », raconte la mère de famille du Sénégal arrivée au pays il y a 1 an. « Chaque jour, elle me demande de lui apprendre à en faire. Dès qu'elle aura gagné en confiance, elle transmettra ses connaissances à sa fille. » L'aînée du groupe, Myriam Capriles, 72 ans, inspire les plus jeunes. Elle a quitté le Venezuela pour rejoindre sa fille, qui a immigré quelques années avant elle. Après 2 ans et demi à Montréal, la septuagénaire parle français et apprend maintenant l'anglais. En plus du vélo, évidemment. Elle attend son permis de travail pour contribuer à sa société d'accueil. À sa création en 2021, d'abord à titre de projet pilote, le programme Tout à vélo a formé une centaine de femmes. 2 ans plus tard, ce sont 523 femmes, dont une majorité d'immigrantes, qui ont appris à pédaler. Le programme est offert désormais dans 5 régions du Québec. La plupart pensent qu'elles sont seules à ne pas savoir faire du vélo, raconte Léa Blight, conseillère en intégration sociale du Carré-Saint-Laurent et partenaire du programme Toutes à vélo. Au téléphone, elles sont gênées d'avouer qu'elles ne savent vraiment pas en faire. En étant regroupées, elles découvrent qu'elles ne sont pas seules. Elles se motivent l'une l'autre à réussir. Quand elles parviennent à pédaler, c'est magique, lance Madame Blight. Faire tomber les barrières. Cette année, Vélo Québec a une liste d'attente de 800 personnes. On ne suffit pas à répondre à l'immense besoin, dit Magali Bebron, directrice des programmes de l'organisme. Dans l'intégration des nouveaux arrivants, on a tendance à oublier la mobilité. Or, le vélo est un moyen économique pour eux de se rendre à l'école, au cours de francisation, au travail. D'ailleurs, les séances sont gratuites, les vélos et les casques leur sont prêtés et une halte garderie est offerte. Il y a des raisons pour lesquelles les femmes n'apprennent pas à faire du vélo, souligne Madame Bebron. Il faut faire tomber ces barrières, d'où l'importance d'un programme conçu par et pour les femmes. Selon l'état du vélo au Québec en 2020, 62% des hommes font du vélo au Québec comparativement à 47% des femmes, une disparité qui tend à augmenter avec l'âge. Vélo Québec a tenté de faire financer le projet, sans succès, par le secrétariat à la condition féminine, au provincial. L'organisme tente actuellement d'obtenir un financement fédéral. Chargée de projet chez Vélo Québec, Catherine Plante rassemble les participantes sous un auvent pour une leçon de signalisation et une pause à l'ombre. Le bruit des avions qui passent à fréquence régulière au-dessus de nos têtes enterre une partie de ces explications. Elle leur fait ensuite une démonstration pratique. La main gauche lâche le guidon pour signifier son intention de tourner ou d'arrêter, qui lui vaut une salve d'applaudissements bien sentis. Françoise Gouka enfourche un vélo à son tour pour tenter de l'imiter. Elle perd l'équilibre et chute lourdement sur le bitume. Les accompagnatrices et plusieurs participantes se ruent pour l'aider. « Ne vous en faites pas, je vais être correcte », dit la quinquagénaire d'origine congolaise, qui se relève péniblement. On lui conseille d'aller s'asseoir un peu pour reprendre ses esprits. Il y aura quelques chutes sans gravité cet après-midi-là, mais surtout beaucoup de rire et de solidarité. Une fois que les participantes auront perfectionné leurs habiletés motrices en circuit fermé, elles feront des séances sur la route. En juin prochain, on fera le tour de l'île ensemble, lance Valérie-André Autier, accompagnatrice et ancienne participante du programme. Plusieurs ont les yeux ronds en apprenant que l'événement consiste à rouler une 50aine de kilomètres à travers la ville. Marie-France Mengong s'est acharnée durant les 2 dernières heures à conserver son équilibre après le démarrage quand elle se joint à la charismatique Fatou assise à l'ombre. « Tu as réussi ?» lui demande Fatou. « Pas encore, lui répond Marie-France, un peu débinée. « La prochaine fois ?» l'encourage Fatou, qui a elle-même chuté en fin de séance, sans perdre le sourire. L'apprenti cycliste vient nous saluer avant de partir. Elle a un titre à nous suggérer pour l'article. « Les femmes aux commandes ». Le programme lui a donné confiance avec un guidon, et probablement plus encore. C'était « S'intégrer, un coup de pédale à la fois », un texte de Caroline Touzin, paru le 10 août 2024 dans la presse.
Confidence d'une bergère, un texte de Marie-Hélène Poitras paru le 13 août 2024 dans Le Devoir. Au repère de Biquette du parc Maisonneuve, nos moutons sont particulièrement adorables cette année et peu turbulents, exclusion faite de Chalette, aïeul charismatique, et de Madrid, grand flagorneur, mais on pardonne tout à ces deux-là. Deux agnelles sœurs, Violette et Joséphine, sont un ravissement pour les yeux. Leur petite tête joyeuse, leur empressement à rester au flanc de leur mère, cette manière qu'elles ont de ne jamais s'éloigner l'une de l'autre et le petit trot catastrophé qu'elles adoptent quand elles comprennent qu'un peu de distance les désunit. Depuis toujours, j'observe les animaux. Ce cheptel que je veille avec un mélange d'attention et d'affection vive, les chevaux dont la puissance et la grâce m'éblouissent, Machat, Mocha, dont les traits semblent avoir été esquissés par quelqu'un qui passait vraiment une belle journée. J'aime même regarder les animaux sur Instagram. Lors de ma visite du musée de la chasse et de la nature à Paris, grand cabinet de curiosité surtout consacré à l'étude de l'évolution du lien qui relie l'humain à son environnement à travers l'art, j'ai ramené quelques livres pour nourrir ma fascination. Dans la pile, il y a ce petit essai étrange avec un rhinocéros déçu de l'écrivain britannique John Berger, aux éditions Héros Limite, paru en 2011, intitulé « Pourquoi regarder les animaux ?» Une question qui m'obsède. Cet été, mon quatrième comme bergère, je me rends compte que, oui, je continue d'observer les moutons, mais je comprends qu'une nouvelle dimension élargit ma perspective. Maintenant, un peu malgré moi, j'observe aussi des gens qui regardent les animaux. Confidence de bergère numéro 1. Je constate que je suis moins patiente avec les humains cette année. Bien sûr, je réponds avec plaisir aux questions sur l'éco-pâturage, la vie du mouton, l'entretien de ses onglons, la tonte, etc. Comment se fait-il qu'un agneau noir puisse naître de parents blancs? Le mouton est plus intéressant qu'on le croit. J'adore quand des gens qui ont grandi parmi eux sur d'autres continents me racontent leurs souvenirs. On compare nos moutons et soudain nous voilà collègues. Mais je constate que j'ai la mèche plus courte devant certaines remarques et certains comportements. Non, on ne peut pas flatter les moutons, surtout lorsqu'ils sont en déplacement. Ils finiraient par se lasser et Biquette n'est pas un zoo urbain. Cela dit, je peux tout à fait comprendre cette envie, car c'est pour avoir le privilège d'enfouir ma main à travers l'épaisseur de leur laine que je suis devenue bergère. Près de la peau rose, sous les 2 ou 3 pouces de frisou, la laine plus fraîche est d'un blanc immaculé, si vibrant qu'on dirait qu'elle émet de la lumière. Confidence de bergère numéro 2. Oui, nous les bergères et bergers, flattons les moutons, s'ils s'approchent de nous et qu'il n'y a personne. Et mon doux qu'on se gâte! Leur toison froufrouteuse imprègne la main d'un parfum à la fois animal et végétal. Ça sent les blés, le foin, la campagne et une note plus terreuse, celle de la lanoline, ce si beau mot qui désigne la cire de laine un peu gommeuse qui se dépose sur nos mains. Confidence numéro 3. Lorsque nous rentrons les moutons dans la bergerie à la fin de la journée et qu'après avoir mangé, les animaux se couchent dans le branle si propre qui sent le bois sec, un des parfums les plus réconfortants au monde. Brebis, béliers, agnelles et agneaux s'agglutinent pour former un gros édredon molletonné, courte pointe de blanc, de crème, de sucre à la crème, de caramel, de noir roux, de noir ténèbres. Et cette vision de tous les animaux réunis dans la douceur du soir pour s'assoupir procure à la bergère que je suis un apaisement immense, une émotion. La nuit, quand je ne dors pas, je ne compte pas les moutons. Croyez-moi, ça n'a rien d'endormant pour une bergère. Mais je pense à eux, rassemblés en boules laineuses dans la bergerie. Je me suis un peu égaré en cours d'écriture car je voulais surtout répondre, dans cette chronique, à une question bien légitime que les gens me posent. Est-ce intelligent un mouton? Cette question m'agace et m'inquiète, car elle m'oblige au constat suivant. Nous, humains, avons une vision anthropocentriste du monde. Dans un passage de l'essai « Pourquoi regarder les animaux ?», John Berger se penche sur l'arrivée des eaux en Europe et sur la réaction, souvent déçue, des visiteurs. Pourquoi ces animaux ne répondent-ils pas à mes attentes? Il faudrait d'abord mettre la question au pluriel. Est-ce que les moutons sont intelligents? Car le mouton est grégaire, pluriel dans son essence. Un mouton seul serait malheureux, stressé, probablement dépressif. Les moutons n'abandonnent pas leurs semblables. Pas parce qu'ils sont supérieurement moraux à nous, plutôt parce que, dodus et gras, lents, plantés sur quatre petites pattes brindilles, chaussés d'onglons plutôt que de robustes sabots et pourvus d'incisives sur la mâchoire inférieure seulement, ils n'ont rien pour menacer, rien d'autre pour se défendre que la force du nombre, l'union et la collectivité. Leur stratégie, devant un danger imminent, est de se rassembler. Je répète, quand ça va mal, et même quand ça va bien, tout le temps, en fait, ils restent groupés, se protègent, veillent les uns sur les autres. C'est nous qui les suivons, en fait. Et cela m'amène, moi, bergère, en regardant la communauté soudée des Ovis Aries, à répondre à la question de l'intelligence du mouton par une autre question, surtout quand je vois un cycliste rouler à toute vitesse dans le parc en costume olympique et tenté, avec une exaspération théâtrale, de slalomer entre 20 boules de laine qui traversent le chemin. Est-ce que les humains sont aussi intelligents qu'ils le croient? Dernière confidence de Bergère. J'ai très hâte de voir le film « Berger » de Sophie d'Éraspe, adapté du roman « D'où viens-tu, Berger ?» de Mathias Lefebure, l'histoire d'un publicitaire qui abandonne tout pour devenir berger en Provence. Le film sera présenté au TIFF en septembre 2024 et sa sortie en salle est prévue en novembre 2024. C'était « Confidence d'une bergère », un texte de Marie-Hélène Poitras, paru le 13 août 2024 dans Le Devoir.
Retrouver la capacité à nous connecter sans les filtres des écrans. Une chronique de Nicolas Vandal, parue le 22 juillet 2024 dans le magazine Fugue. Il fut un temps où le flirt était considéré comme un art en soi, un jeu de regard, de sourires subtils, de conversations envoûtantes dans les bars du village. Chaque interaction, en face à face, était une occasion de découvrir l'autre, de ressentir sa présence, de se laisser envoûter par la séduction. Je me remémore, avec une tendresse mêlée de nostalgie, ces nuits pas si lointaines, où les corps s'attiraient comme des aimants, se laissant emporter par le rythme enivrant de la musique. Le flirt n'était pas seulement un jeu de séduction, mais une véritable déclaration d'audace, un acte de courage où l'on se risquait à se dévoiler à l'autre. Pourtant, aujourd'hui, même dans des lieux dédiés à l'exploration de la sensualité et du plaisir comme les saunas, je suis frappé par la froideur de nos interactions. Plutôt que de se perdre dans les regards enflammés et les effleurements furtifs, nombre d'entre nous préfèrent se réfugier dans l'illusion du virtuel, échangeant des messages avec des inconnus alors même qu'ils sont nus à quelques pas l'un de l'autre, nus, attendant d'être explorés. Loin de moi l'idée de diaboliser les applications de rencontre. Je les utilise aussi, conscient de leur utilité, mais je crains que nous ne soyons devenus trop dépendants de ces interfaces numériques. Nous sommes tellement absorbés par nos écrans que nous en oublions le frisson d'un bel Apollon croisé au coin d'une rue ou le charme d'une conversation spontanée dans un café de la rue Sainte-Catherine. Lorsque je suis assis dans un bar, à siroter un verre et que mon téléphone s'anime d'une notification, si l'inconnu qui me contacte est à portée de regard et me semble intéressant, je suis d'abord tenté de céder à la facilité du virtuel. Pourtant, c'est avec une curiosité empreinte de désir que je me risque souvent à m'aventurer vers lui. Mais ce qui me fascine toujours, c'est sa réaction figée, comme si la présence physique avait soudainement effacé la confiance virtuelle. Ses yeux, qui étaient auparavant absorbés par l'écran lumineux de son téléphone, se lèvent pour rencontrer les miens avec une surprise mêlée d'appréhension. C'est comme si le monde réel avait brutalement interrompu le scénario soigneusement orchestré du virtuel, laissant place à l'improvisation. Cette transition du virtuel au réel peut souvent nous rendre timides, comme si chaque pas nous rapprochant de l'autre nous confrontait à nos propres peurs et incertitudes. Mais c'est précisément dans ces instants que la magie opère, lorsque nos regards se croisent, que nos voix se mêlent, que nos corps s'approchent. C'est là que la véritable connexion se crée, au-delà des pixels et des écrans, dans la chaleur et la proximité. Bien entendu, nos tentatives ne débouchent pas toujours sur la rencontre tant désirée, et parfois, nous tentons de nous éclipser par tous les moyens lorsqu'elle s'avère aussi ennuyante qu'une boîte de conserve de haricots. Mais, en ce qui me concerne, je n'ai jamais regretté d'avoir osé, d'avoir flirté à la manière d'antan, car chaque tentative m'a permis de découvrir des personnalités uniques, des visages qui auraient pu rester invisibles derrière un écran. Pourquoi avons-nous abandonné la simplicité et la beauté spontanée du face-à-face? Peut-être est-ce par peur de la vulnérabilité, par crainte du rejet ou simplement par commodité? Les écrans offrent une barrière, une distance confortable qui nous protège des regards critiques, des jugements, des refus. Cependant, cette barrière nous prive également de la richesse des rencontres vraies, des connexions authentiques, de la sensualité partagée. Nous avons perdu la capacité de nous laisser envoûter par l'autre, de sentir l'excitation d'un regard croisé, de goûter la douceur d'un frôlement, de savourer la montée lente et délicieuse du désir. Notre communauté a toujours été un bastion de liberté, d'exploration, d'audace. Nous avons été à l'avant-garde des révolutions sexuelles, repoussant sans cesse les limites de la norme, explorant les territoires interdits de l'amour et du désir. Nous avons fait tomber les barrières du conformisme, célébré la diversité des corps et des esprits et transformé la marginalisation en un puissant mouvement de fierté et de visibilité. Mais aujourd'hui, je trouve dommage qu'on ait perdu cette capacité à nous connecter sans les filtres des écrans. En cette période estivale, alors que les terrasses du village sont animées et que les célébrations de la fierté s'approchent, je nous invite à retrouver le courage d'être vulnérables. Osons franchir le pas, car les téléphones ne peuvent remplacer la chaleur d'un regard, le sourire d'un inconnu ou la magie d'une conversation inattendue. Et cela nous rappelle à quel point la vie est belle lorsqu'on ose se mettre à nu. C'était « Retrouver la capacité à nous connecter sans les filtres des écrans », une chronique de Nicolas Vandal parue le 22 juillet 2024 dans le magazine Fugue.
Et si on arrêtait d'asphalter les rues résidentielles? Un texte de Jean-François Millette, paru le 14 août 2024 dans Le Devoir. Avec le réchauffement climatique et la perte de biodiversité, les scientifiques nous alertent sur le fait que nous fonçons droit dans le mur. Les feux de forêt au Québec de l'année passée qui ont affecté la qualité de l'air comme jamais, la chaleur extrême en Europe qui a fait grimper le prix de l'huile d'olive au-dessus de celui du sirop d'érable et les pluies torrentielles de la semaine dernière qui ont inondé nos sous-sols en sont des exemples frappants. Il est urgent d'agir. Mais je constate que les changements dans nos comportements restent limités. Nous devons entreprendre des actions concrètes pour laisser une planète viable à nos enfants. Je vous propose une idée qui serait bénéfique pour l'environnement, pour notre qualité de vie et pour notre portefeuille. Voici ma proposition. Éliminer le bitume sur les rues résidentielles et abaisser la limite de vitesse à 10 km/h sur ces rues. Le bitume serait remplacé uniquement à la fin de sa durée de vie utile par de la poussière de roche, aussi appelée garnott. Ce n'est pas une technologie futuriste, car de nombreux chemins au Québec sont déjà en gravier. Selon le professeur à l'ETS Alan Carter, dans l'épisode du Téléjournal de Radio-Canada du 16 juillet 2024, lorsque la densité du trafic le permet, le bitume est superflu. Les chaussées en gravier coûtent environ le tiers ou le quart du prix du bitume et des matériaux peuvent être utilisés pour limiter la poussière. De plus, comme ces chaussées sont plus claires que le bitume, elles contribuent à réduire les îlots de chaleur. Puisque l'espérance de vie d'une rue en asphalte est de 20 ans, imaginez tous les déchets et le goudron qui seraient épargnés par cette méthode. On pourrait également rendre les rues poreuses pour pouvoir absorber une partie de l'eau apportée par les orages que nous ne sommes plus en mesure de gérer par les égouts. Multifonctionnelles. Ces nouvelles rues résidentielles seraient multifonctionnelles, comme la portion de la rue Ontario devant la place Simon-Valois près de chez moi. Les piétons, les cyclistes et les automobilistes partageraient la même voie avec une limite de vitesse de 10 km/h, comme dans les campings. Ainsi, il ne serait plus nécessaire de construire des pistes cyclables. La sécurité des enfants serait accrue et la limite de vitesse très basse limiterait le soulèvement de poussière. Pour limiter l'impact sur les déplacements en voiture et en transport en commun, les artères principales resteraient asphaltées et conserveraient leur limite de vitesse actuelle. Dans les pentes raides, les rues seraient aussi asphaltées pour assurer une bonne traction et une conduite sécuritaire. Cette proposition permettrait de réduire les coûts et, idéalement, les taxes municipales, de diminuer l'utilisation d'asphalte à base de pétrole, de réduire des tonnes de déchets, de diminuer les îlots de chaleur, de servir d'éponge lors des fortes pluies, d'améliorer la sécurité et de faire un pas vers la réduction du réchauffement climatique. C'était « Si on arrêtait d'asphalter les rues résidentielles », un texte de Jean-François Millette paru le 14 août 2024 dans Le Devoir.